les par actualité.
Bienvenue à l'émission Les Paractualités du 13 mars 2018. Hélène Denis avec vous et en manchette aujourd'hui, un manque criant de financement à Laval. Une adolescente autiste intimidée lance un cri du cœur. Un feu sonore pour malvoyants à l'essai à Québec. La rénovation des urgences de l'hôpital Saint-Boniface avance. Et en entrevue, je recevrai Vincent Guillaume Otis, comédien et porte-parole de la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle, ainsi que Lucie Robida, directrice du développement des services adaptés de Vues et Voix. Nouvelle tirée de courrierlaval.com, un manque criant de financement à Laval. La députation provinciale lavalloise était réunie au Palace la semaine dernière dans le cadre d'une consultation pré-budgétaire et le message passé par leurs invités était clair. Il faut plus de ressources financières. Nous avons ouvert un troisième point de service et il déborde, a lancé Mylène Dubois, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Laval, en référence au grand nombre d'enfants en situation de vulnérabilité sur le territoire. Marie Bouchard-Dorval, directrice de Partage humanitaire, un organisme qui anime les milieux de vie d'un millier d'aînés de la résidence privée au CHSLD, a fait remarquer aux élus que le communautaire n'est pas une dépense, mais un investissement. Nous n'arrivons pas à rendre les services que nous devrions rendre. Nous ne sommes pas capables d'attirer du personnel qualifié par manque d'argent. Du côté de la Maison Val-des-Bois, une résidence accueillant des adultes lourdement handicapés, Sylvain Dastous, le directeur, était visiblement ému lorsqu'il a parlé de sa clientèle. Ces gens ne peuvent pas aller au cinéma, au théâtre, sans être accompagnés. Ces résidents sont pris dans leur corps, leurs émotions. Ça nous prend des grands moyens. Ceux qu'on embauche se forment, prennent de l'expérience et ensuite ils vont ailleurs. Le même discours a pu être entendu de la part de Jean-Alexandre Perrault, directeur de Stimule Art, un regroupement des servants des Lavallois, vivant avec une déficience intellectuelle. Une adolescente autiste intimidée lance un cri du cœur, c'est une nouvelle tirée du Journal de Montréal. Des humiliations, des coups de pied dans les côtes et des menaces, le calvaire qu'a vécu Sophie Thibault-Malouin. Une adolescente autiste de 14 ans prise pour cible depuis des mois par un groupe d'élèves de son école secondaire l'a poussée à vouloir mettre fin à ses jours cet hiver. La jeune fille a livré son témoignage au journal pour faire comprendre aux enfants et à leurs parents les conséquences dramatiques de l'intimidation. C'est ainsi, la gorge et les poings serrés, que Sophie Thibault-Malouin décrit les pensées qu'il habitait ce soir de décembre dernier, où elle s'est enfermée avec un couteau de cuisine dans le placard de sa chambre d'enfant, avant que sa mère ne vienne l'empêcher de commettre le pire. Depuis 6 mois, cette adolescente est devenue le souffre-douleur de 3 élèves de son école secondaire, l'établissement Calixa-Lavallée, situé dans Montréal-Nord. Son apparence physique et son autisme, qui la rend particulièrement nerveuse face aux imprévus, ne sont pas les seules raisons qui font de Sophie la cible favorite de ses enfants. Le manque de moyens de ses parents est aussi un sujet de moquerie. Depuis que tout ça a commencé, elle n'est plus la même, confie sa mère, Valérie Thibault-Malouin. Elle adorait l'école et maintenant, elle ne veut plus y mettre les pieds. Contacté par le Journal de Montréal, le directeur de l'école secondaire, Calixa-Lavallée, a indiqué que son établissement est très attentif aux cas d'intimidation et applique une procédure précise en plus de travailler en collaboration avec le CLSC de Montréal-Nord et le SPVM. Un feu sonore pour malvoyants à l'essai à Québec. C'est sur le site de Radio-Canada. La Ville de Québec met à l'essai depuis lundi dernier un nouveau feu sonore pour les personnes malvoyantes. Le dispositif a été installé à l'intersection de l'avenue Brown et du chemin Sainte-Foy. La municipalité procède à des tests afin de s'assurer que l'appareil est approprié et adapté aux équipements déjà en place sur son territoire. Il y a de nouveaux produits qui existent sur le marché et on cherche toujours à voir à ce que ces produits-là offrent un meilleur service, sont plus efficaces que ce que nous avons actuellement, explique le directeur du service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, Marc Desrivières. On demande aux usagers de venir faire des essais en notre compagnie. Ça nous permet de voir l'appréciation que les gens ont à l'égard de la nouvelle technologie. Le processus d'homologation s'inscrit dans le cadre des démarches de la municipalité visant à remplacer les feux sonores répartis sur son territoire. Quelques 160 intersections sont équipées d'un signal piétonnier pour les malvoyants à Québec. À l'inverse, des feux pour malvoyants qui sont en fonction à l'heure actuelle, le nouveau dispositif testé par la Ville regroupe en un seul et même appareil le bouton poussoir et le localisateur. Les tests effectués par la municipalité vont se poursuivre jusqu'au 15 mars. L'appareil mis à l'essai sera par la suite démantelé. Le service du transport et de la mobilité intelligente rédigera ensuite un rapport dans lequel il recommandera ou non à la Ville de procéder à l'achat du feu sonore. Ma collègue Lucie Robida est en studio de la Belle Visite. Bonjour Lucie.
Bonjour Hélène.
Directrice du développement des services adaptés de Vues et Voix pour parler de la première conférence de Vues et Voix qui aura lieu très bientôt au 43e Congrès international de l'Institut TA pour troubles d'apprentissage. Ça va avoir lieu à Montréal. C'est la première fois, Lucie, que Vues et Voix donnera une conférence lors du Congrès international sur les troubles d'apprentissage. Sur quoi va-t-elle porter?
Oui, d'abord, c'est la première fois, vraiment la première fois qu'on a l'occasion de présenter à l'invitation de l'Institut des troubles d'apprentissage, de présenter le rôle, la mission de Vues et Voix, mais surtout les avantages du livre audio adapté. Parce que les gens, auparavant, on assistait au congrès, mais comme exposants. Et on n'avait pas le temps d'expliquer comment fonctionnait l'emprunt pour les livres adaptés et quels étaient les services que nous avions.
Alors d'ailleurs, la conférence s'intitule « Le livre audio, une valeur ajoutée pour les personnes vivant avec un trouble d'apprentissage ». Vous avez parlé de livres adaptés et puis le titre parle de livres audio. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
On va insister sur le livre audio adapté. Oui. Dans notre cas, ça va porter sur le livre audio adapté à cette conférence-ci cette année.
Alors, qu'est-ce que le livre audio
voilà,
adapté?
Voilà, et la conférence va être une conférence à trois personnes. Alors, une personne de l'ITA, une bénévole de Vues et Voix et moi-même, où on présentera le modèle des fonctions d'aide, la conseillère du trouble d'apprentissage va présenter le modèle de fonctions d'aide. Et c'est un modèle qui a cours dans tout le réseau québécois de l'éducation. Alors ça, c'est important parce que ça va préciser la fonction du livre audio dans un processus d'apprentissage. Maintenant, sur quoi va porter la conférence de façon un peu plus précise?
Mm-hmm. Les objectifs.
Voilà. Alors, on a le premier objectif, c'est de transmettre les renseignements essentiels sur le bienfait du livre audio. Et pourquoi le bienfait? C'est pas seulement que le processus d'adaptation, c'est ce que ça a comme impact sur la compréhension de la lecture, sur l'acquisition de la fluidité en lecture et sur l'enrichissement du vocabulaire ainsi que sur la motivation en lecture qui sont des bases pour faire en sorte que l'élève passe à une autre étape oui. de sa lecture.
Et le goût de lire.
Et voilà, oui. la motivation oui. est un des principes le plus fondamental pour que le jeune, par la suite, puisse poursuivre la lecture. Il y a aussi présenté un témoignage d'un bénévole de Vues et Voix, donc co-animation, et aussi, et ça c'est peut-être le plus important, c'est d'expliquer de façon très concrète les étapes pour avoir accès aux livres audio chez les jeunes qui ont un programme de lecture obligatoire.
Oui. Et ben, vous avez de beaux, grands objectifs et puis vous y croyez, vous.
Oui, tout à fait. En fait, on a même plus que... on a un témoignage à présenter d'un jeune qui a pu bénéficier de l'enregistrement fait par des bénévoles ici pour ses livres scolaires et qui est passé d'une étape où il était complètement découragé par la lecture à une étape où il a compris et qui avait des résultats scolaires significatifs, mm-hmm. mais il a compris qu'il pouvait aussi aimer la lecture et tout ça en 3 ans. Alors, le modèle que ça a pu créer, ça va faire des copies, je dirais, de cette réussite.
Oui, très et, encourageant.
Tout à fait.
Et Lucie, il y a un programme qui est, je pense, lié avec les objectifs dont vous venez de nous faire mention, le programme Lulu. Lulu pour Lucie. C'est Lucie qui a inventé ce programme.
En fait, non, très humblement, c'est un comité de réflexion composé de bénévoles de Vues et Voix et qui ont élaboré la pensée que les jeunes avaient besoin de livres pour eux-mêmes dans une perspective où ce n'est pas nécessairement accessible présentement au Service québécois du livre adapté ou au Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Lulu s'occupe de ce qui est à créer pour répondre rapidement aux besoins d'étudiants dans leur cursus.
Alors, c'est à faire.
C'est en cours depuis quelques années. Et là, c'est en train de se,
réaliser, concrétiser.
On a déjà 20 de livres qui ont été faits. On a reçu une subvention, c'est-à-dire un don de la Fondation de la famille Benoît, que je remercie s'ils sont à l'écoute parce que ce sont donc des sous qui ne viennent pas du gouvernement ni non plus du budget d'opération, mais de l'argent bienfaiteur.
Merci. Des mécènes, finalement.
Des mécènes,
et quel
voilà.
est le budget, Lucie, du livre adapté jeunesse?
Eh bien, il n'y a pas un budget en tant que tel. Nous, ici, à Vues et Voix, on fait 100 livres audio adaptés par année. Sur ces 700 livres, j'ai dit 100, mais c'est 700 livres.
D'accord, 7 fois 100.
C'est ça. Et sur ces 700 livres, il y en a 10% seulement qui sont consacrés aux livres jeunesse. Oh. Alors, ça vous donne une idée du peu de livres accessibles pour le moment. Et c'est le fait d'être dans une zone non répondue, un endroit où il n'y a pas de ces services-là que nous sommes nés, en fait, mm-hmm. pour offrir justement... à compenser.
Alors, encore beaucoup de travail à faire et de l'argent à aller chercher également.
On continue. On fait des demandes un peu partout. On propose des projets et on va faire des partenariats aussi avec des éditeurs et pour offrir une autre version. Mais pour le moment, on est dans le livre audio adapté et éventuellement, on aura un format accessible universel.
C'est parfait. Est-ce que c'est vous qui allez donner la conférence?
On est 3 personnes.
C'est 3. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit au début.
Oui, oui, 3
mais
personnes.
Vous faites partie du trio.
Oui.
D'accord.
Moi, je vais parler de la mission de Vues et Voix, je vais parler de la norme DESI, qu'est-ce que c'est? Je vais parler de la loi sur le droit d'auteur. Alors, ça va être pour préciser, faire en sorte que les gens aient l'idée la plus concrète possible.
Parfait. Alors, la première conférence de Vues et Voix, c'est le jeudi 22 mars à 15h au 43e Congrès international de l'Institut Théa à Montréal. Tout le monde est invité. Pardon?
On peut s'inscrire.
Oui.
On peut s'inscrire à institutta.com ou au 514-287-9898, poste 248.
Parfait. Voulez-vous répéter le numéro de téléphone, s'il vous plaît?
514-287-9898, poste 248.
Alors, on vous réinvitera, Lucie, pour avoir des nouvelles de cette première conférence.
Bien, ça me ferait plaisir
Merci
de vous
beaucoup.
En donner. Merci.
Depuis le 11 mars et ce jusqu'au 17 mars, c'est la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle. On en parle beaucoup à Canal M de Vues et Voix. Et on en parle aujourd'hui avec Vincent Guillaume-Otis, comédien bien connu, qu'on peut voir dans District 31, dans Rupture, qui est le porte-parole de la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle depuis 2011, 7 ans déjà. Bonjour, Monsieur Otis.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Pourquoi vous avez choisi de vous associer à cette semaine?
Ben, il y a plusieurs raisons, en fait. Là, il y en a une principale. C'est drôle comment ça s'est fait quand Annick Larose, qui était à ce moment-là directrice de l'Association québécoise pour l'intégration sociale, m'a approché pour devenir porte-parole. On est de sortir le film Babine,
oui.
Où j'interprétais justement un personnage dans ce film-là, où j'interprétais le rôle de Babine, là, justement un personnage qui vivait avec une déficience intellectuelle, en tout cas quelque chose qui tourne autour de ça.
Vous étiez tellement attachant quand vous posiez la question « C'est quoi l'amour?
» Oui, c'est un film qui a marqué, je pense.
Oui.
Il marque encore, je m'en fais encore beaucoup parler, puis c'est comme devenu un peu le film de Noël aussi.
C'est vrai.
À Télé-Québec, il passe souvent, fait que je m'en fais parler par une autre génération aussi,
ah, oui.
Des jeunes enfants qui le voient, fait que, mais avec beaucoup d'humilité, là, je fais partie d'un film très grand. Fait,
c'est un classique. Périn,
hein. En tout cas, oui, exactement. Bref, alors, il y a cette sortie de ce film. Annick Larose m'approche pour me dire, bon, on trouve que tu as interprété le rôle avec beaucoup de sensibilité. Est-ce que tu as envie de devenir, on cherche un porte-parole pour la semaine? Puis, évidemment, j'accepte d'emblée. Puis, je lui dis à ce moment-là, moi, j'ai mon frère, mon jeune frère, on a un an de différence, je vis avec une déficience intellectuelle. Mmh. J'avais jamais parlé de ça avant, quand Luc Picard m'a approché pour faire le film. J'avais pas envie, comme, de me servir de ça de façon un peu racoleur.
Ouais.
Je voulais qu'on m'offre le rôle pour je le dis encore très humblement, là, le talent ou ce que je peux apporter au rôle. Puis, je m'étais dit, une fois que le film sera sorti, là, je profiterai de ça. Pour devenir, en tout cas, pour parler de la cause, puis tout ça.
Ah oui.
Ça s'est fait tout seul. Là, j'en ai parlé avec Annick qui m'a approché, je lui ai dit ça, puis à quelque part, c'est comme devenu un peu un jackpot pour elle, là, tu sais, parce que justement, cette année-là, en plus, c'est le thème, c'était la fratrie. Fait que là, tout ça s'est emboîté, puis moi, dans ma tête, ça a toujours été clair, quand, en tout cas, même quand en faisant mon école de théâtre, quand je me dis un jour, si j'arrive à être assez connu pour pouvoir épouser une cause, ben c'était certain que ça allait être celle-là avant toutes les autres.
Ah oui.
Parce qu'évidemment, bien sûr, évidemment, moi, j'ai toujours considéré d'avoir que mon frère était m'avait apporté plus que j'avais pu lui donner, puis pour toutes sortes de raisons, mais que ça m'a fait grandir comme être humain. Puis je me suis toujours dit, si un jour je suis assez connu, je parlais des effets bénéfiques, justement, positifs de côtoyer des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle.
Est-ce que je peux vous demander le prénom de votre frère?
Il s'appelle Jean-Sébastien.
Alors, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui vous a apporté ce frère?
Bien évidemment, je dis toujours, c'est des valeurs qui sont données de façon un peu indirecte ou par défaut. T'sais. Moi, mon frère, c'est mon frère, je veux dire, qui vit avec une déficience intellectuelle ou pas, ça reste mon frère.
Ouais.
Puis je dis souvent que je l'ai appris plus tard qu'il y avait une déficience intellectuelle. Pour moi, petit, c'était juste quelqu'un que je côtoyais, quelqu'un que j'aimais, qui avait ses défauts, ses qualités, ses limites, ses forces, comme moi. T'sais. J'étais au contact avec le reste des gens, la société, qu'à un moment donné, j'ai compris. C'est les autres qui m'ont fait comprendre que mon frère était différent.
Ah,
exactement.
Oui.
Évidemment, je dis ça, mais mes parents m'en ont parlé jeune aussi, mon sensibilité à ça. Mais bref, j'ai l'impression que par défaut, j'ai grandi ou il m'a inculqué cette espèce de valeur d'ouverture à l'autre, mm-hmm. Tu sais, des valeurs aussi de justice sociale, parce que j'ai vu des choses terribles, pas très drôles quand j'étais jeune, puis j'ai été ce concept-là de justice, puis ce qui est pas juste, puis pourquoi on fait des choses comme ça, des gens qui ont pas. J'ai été confronté à ça.
Ah oui.
Il a fallu que je me crée une espèce de paradigme de valeurs très jeune. T'sais. Il y a la responsabilité aussi. Je lisais à un moment donné, un ami qui est pédopsychiatre me faisait part d'une étude américaine sur laquelle il est tombé dernièrement sur ça, sur le fait que les frères qui vivent avec des gens ou les sœurs qui vivent avec des gens qui ont une déficience intellectuelle développent une espèce de responsabilité, un sens de la responsabilité plus aigu que la majorité des gens. Ben, nécessairement, tu sais, on se sent responsable. Mais ça peut devenir un poids aussi, tu sais.
J'imagine.
À l'adolescence. Ça, j'en parle souvent quand des fois, ça m'arrive de donner une petite conférence dans les écoles secondaires, puis je dis beaucoup, s'il y a des gens comme ça, je leur dis, c'est pas, faut pas que vous ayez honte nécessairement ou de dire que on choisit pas ça nécessairement aussi des fois.
C'est pas toujours facile. Ouais.
Non, puis ça peut être lourd. Quand tu arrives au secondaire, tu as des groupes d'amis, il y a du monde ça peut être dur, puis cette honte-là que tu peux développer, mais des fois, il faut juste en parler avec des gens, puis tu vois, on est capable de déboulonner ça assez facilement, mais c'est ça. Comme je disais, c'est qui vient avec. Tu choisis pas ton frère ou ta soeur.
C'est ça.
Mais moi, je dis souvent que plus tard, il va. C'est juste du bon qui va ressortir. T'sais. Puis je le vois, moi j'ai des jeunes enfants, je le vois à quel point mes enfants aussi sont nécessairement eux aussi, je vois qu'ils ont développé cette espèce d'ouverture à l'autre par défaut.
Par rapport à leur oncle,
oui, c'est ça.
Et à ceux qui présentent des déficiences intellectuelles aussi.
Oui, mais même plus que ça, il y a une incidence. L'ouverture, là, c'est cette espèce d'ignorance ou de peur de l'autre ou de ce qu'on ne connaît pas. Si tu es capable de mettre fin à ça, mais nécessairement, ça s'ouvre.
Oui.
Ça se déploie, puis ça va aller, ça touche à tous les autres mots de notre société. Là, qu'on parle de xénophobie, d'homophobie, de racisme, puis tout ça. Je veux dire, la genèse de ça vient nécessairement juste du fait qu'on ne connaît pas. Tu sais.
Tout à fait. Avez-vous remarqué, Vincent Guillaume Motis, un changement dans les mentalités, les comportements depuis votre implication dans cette semaine québécoise pour la déficience intellectuelle?
Bien, ça serait dur pour moi, je serais malhonnête de dire que oui, nécessairement, sur le terrain, je travaille, j'ai une vie de famille, puis tout ça, mon frère habite à Québec, je suis moins en contact avec lui que je l'étais. Ce qu'on me dit, par contre, c'est que, parce que je jase avec des gens qui travaillent plus sur le terrain que moi, on me dit que oui, il y a des points, des échelons qui sont franchis. Là, t'sais, on gravit la montagne tranquillement. T'sais, mm-hmm. Mais c'est une montagne qui est très abrupte. Puis, comme dit Annick Larose, qui est maintenant devenue la directrice générale de l'association, elle me dit, des fois, ça prend 5 minutes pour briser 5 ans de combat. Tu sais. Ça prend une phrase de mal placée par un, je vais le dire, là, entre grandes guillemets, mais tu sais, un humoriste ou quelqu'un. Puis on est dans une ère aussi où maintenant tout le monde a son droit de parole, là. Tout le monde a son blog, tout le monde a son ci puis ça. Fait que quelqu'un de mal informé ou de va dire quelque chose pour faire rire, puis hey, on revient obligé de recommencer à la case départ. Mais c'est pas juste des gens, c'est aussi des ministres, c'est aussi ça prend une politique. Sociale, gouvernementale, puis on est obligé de recommencer à zéro. C'est très difficile. Moi, je sens que ce que je peux dire, par contre, c'est que faut pas généraliser non plus. Les gens que je côtoie ou que je vois dans la rue, il n'y en a pas tant qui ont cette espèce de fermeture-là. Après ma barre, les gens sont ouverts à discuter, tu sais, puis à faire cette rencontre-là.
Ouais.
C'est les ponts qu'il faut créer, tu sais. Puis je pense que la semaine réussit bien à le faire.
Et vous aussi, d'ailleurs.
Ben en tout cas, j'y travaille fort.
Oui.
Mais ce que je peux dire, c'est que tu sais, il y a beaucoup de causes, puis toutes les causes sont louables. Des fois, il faut réussir à être plus sexy pour en parler. Puis tu sais, c'est dans le sens, vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile des fois d'avoir cette tribune là. Tu sais,
mm-hmm.
Mais en tout cas, on y arrive. Puis les gens sur le terrain travaillent très très fort.
Oui. Alors, vous êtes non seulement un porte-parole, mais vous êtes un créateur de ponts également. Vincent Guillaume Motis, vous allez être porte-parole l'année prochaine?
C'est sûr.
Oui.
Porte-parole, tant qu'ils ne me mettront pas à la porte.
Bon.
Mais dans le sens où c'est sûr que moi, je vais jamais. C'est important pour moi de le faire. Je vais continuer. Je le fais pour mon frère. Je le fais pour tous ces gens-là qui travaillent sur le terrain. Font un plus grand travail que moi, mais tant qu'ils voudront bien de moi, c'est certain que je vais être là.
Parfait. Alors, on va vous suivre. Vincent Guillaume Motis, on continue de vous regarder à District 31 et Rupture.
Oui.
Et puis, un grand merci pour cette entrevue, parce qu'on sait que vous avez un horaire très, très, très chargé.
C'est tout naturel.
Au plaisir.
Merci, au revoir.
Et maintenant, une nouvelle tirée de Radio-Canada. La rénovation des urgences de l'hôpital Saint-Boniface avance. L'Office régional de la santé de Winnipeg, ORSW, a lancé mercredi dernier un appel d'offres pour la démolition de l'ancien local des services de réadaptation gériatrique de l'hôpital Saint-Boniface. C'est la première étape de la seconde phase de la transformation du système de santé de Winnipeg. À la suite de sa démolition, l'ancien local des services de réadaptation gériatrique sera rénové pour répondre à la hausse de volume de patients aux services d'urgence de l'hôpital. L'hôpital se dotera de 8 civières supplémentaires, 21 places d'attente interne, 25 places d'attente pour le triage des patients, 9 lits pour le traitement des patients et un nouveau lit de ressuscitation. Les services de réadaptation gériatrique ont été déplacés de l'hôpital Saint-Boniface à l'hôpital général Victoria l'année dernière. C'était une mesure mandatée par la première phase du plan pour restructurer l'offre de services en santé à Winnipeg, guérir notre système de santé. Le plan de l'ORSW indique que dans sa seconde phase, les hôpitaux Concordia et Seven Oaks arrêteront d'offrir des services d'urgence au printemps ou à l'été 2018. La démolition des 200 mètres carrés de l'ancien local des services de réadaptation gériatrique aura lieu en avril. Les rénovations doivent être complétées d'ici l'été 2019. La totalité du projet coûtera environ 5 millions de dollars. L'Association pour l'intégration sociale Beauce-Sartigan tiendra sa toute première soirée reconnaissance lors du mercredi 14 mars prochain afin de rendre hommage à son équipe. Pour l'occasion, deux personnes seront reconnues. L'événement qui se déroule dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle se tiendra au restaurant Barry Grill à Saint-Georges de 18h30 à 21h. Parents, amis, membres de l'Association pour l'intégration sociale et toute la population sont invités à reconnaître le travail de cette équipe. Précisons que l'entrée à la soirée sera gratuite et qu'un service de bar sera offert. Les gens intéressés à participer à cette activité doivent confirmer leur présence en communiquant avec l'association au 418-228-5021, 418-228-5021 ou encore par courriel au ais.rbs@commercial.aisrbs.com. Voilà, ça complète les paractualités du jour. Merci à mes invités, Lucie Robida, directrice du développement des services adaptés de Vues et Voix, et Vincent Guillon-Motis, comédien et porte-parole de la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle depuis maintenant 7 ans. Un grand merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous retrouve demain.